Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Émilie Zapalski. Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Spécialiste de la communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors l'actualité du jour, vous l'avez lu, hein, c'est à la veille de l'examen du budget 2025 par les députés, ce que dit le Premier ministre dans les colonnes du journal du dimanche. Valérie Gass salue cet entretien et nous dit ce qu'il faut en retenir.
Michel Barnier entame demain sa principale épreuve, l'examen du budget, à un moment déterminé pour l'avenir de son gouvernement, alors le Premier ministre a voulu faire quelques mises au point. Il justifie une nouvelle fois les augmentations d'impôts nécessaires pour réduire les déficits, mais redit qu'elles seront temporaires alors qu'en commission des finances, un amendement défendu par la gauche avait pérennisé la taxe sur les hauts revenus. Michel Barnier met en garde contre un concours l'épine fiscale. Dans ce cadre budgétaire contraint, le Premier ministre affirme qu'il doit y avoir une maîtrise des dépenses de l'aide médicale d'État qui assure l'accès aux soins aux sans-papiers et que le gouvernement prendra des dispositions pour qu'elle ne progresse plus. Michel Barnier fait de l'immigration son deuxième chantier prioritaire et déclare comprendre l'impatience des Français sur cette question. Il fait part de sa volonté d'allonger la durée de rétention des étrangers sous obligation de quitter le territoire français et s'engage à reprendre les discussions dans le dialogue avec les pays d'origine pour faire appliquer ces OQTF, mais n'exclut pas de faire pression en utilisant la délivrance des visas ou l'aide au développement.
Émilie Zapalski, cet entretien au JDD ne doit rien au hasard. Hein. C'est maintenant ou jamais pour le Premier ministre. Son avenir d'ailleurs, se joue dans les tout prochains jours.
Oui, on sait qu'il a ce délicat travail de faire voter le budget. C'est compliqué hein, cette fois-ci, puisque l'Assemblée nationale est fortement morcelée et qu'on voit même que dans son propre camp, en tout cas de ce bloc qui pourrait lui servir d'appui, il y a aussi des idées qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'il propose. On voit qu'il a sollicité un peu les deux petits dénominateurs communs acceptables, en fait. Je dirais d'un côté l'immigration dont parlait votre journaliste, avec beaucoup de déclarations tout en fracas, et puis après une position qui est beaucoup plus légère, on va dire. On l'a vu en Italie hein, récemment, vendredi, avec Bruno Retailleau, déclarer qu'on allait faire la même chose que Giorgia Meloni, mettre les migrants dans un hub dans certains pays. Et puis finalement, il revient en France et il dit, ou même pas d'ailleurs, de l'Italie, il dit finalement, ce ne sera pas transposable. Donc ça, c'est l'immigration, c'est pour donner des gages un petit peu sur ce sujet-là. Et puis, de l'autre côté, il y a les impôts pour les plus fortunés, pour essayer de trouver une issue à ce budget, trouver une façon de réduire le déficit et quelque chose qui soit acceptable. On voit qu'il essaie, en bon négociateur du Brexit, de rassembler ce qui pourrait être acceptable. Et il joue quelque chose, il me semble, qui est pas mal, qui commence un petit peu à s'essouffler, mais c'est l'intérêt général par rapport aux postures politiques. Et d'ailleurs, dans cette interview du JDD, il a un peu parlé de tout ça, c'est-à-dire vraiment viser l'intérêt général des citoyens et pas forcément juste son petit égo aux politiciens.
Et la présentation de son projet de budget va aussi permettre de clarifier un peu le paysage politique qui est en crise depuis la dissolution.
Oui, et on voit déjà que tout le travail que la Commission des finances a commencé à faire, donc jusqu'à aujourd'hui, même si le vote n'a pas été positif, on a senti qu'il y avait un véritable débat en Commission des finances avec des idées autres que ce que Michel Barnier proposait pour réduire le déficit. Je parle notamment de la gauche hein, qui a proposé davantage de recettes, donc d'élargir un petit peu.
50 milliards, on y viendra tout à l'heure.
Et donc on voit que ce débat, il est là. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça, c'était une promesse, je pense, aussi faite pour calmer le jeu de Michel Barnier, de dire le débat parlementaire, il va reprendre ses droits, alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas.
Alors, dans ce journal du dimanche, Michel Barnier souhaite aussi une maîtrise des dépenses de l'aide médicale d'État destinée aux étrangers en situation irrégulière. En 2024, l'AME représentait environ 1,5% des dépenses de santé prévues par le budget de la Sécurité sociale et fin 2023, 466 000 personnes en bénéficiaient. Alors l'aide médicale d'État dont tous peuvent bénéficier, y compris les clandestins, les gens en situation irrégulière, ça fait réagir la classe politique. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, elle s'est exprimée sur l'AME chez nos confrères de RTL.
Je relis l'interview du Premier ministre qui dit qu'il faut lutter contre la fraude et que l'AME, c'est un dispositif de santé publique. Et ce dispositif de santé publique, il est important. À quoi ça sert l'AME ? Ça sert à prendre en charge des gens qui n'ont pas accès aux soins sur des pathologies qui sont urgentes et qui peuvent présenter des risques de santé publique éventuellement. Je pense par exemple à la tuberculose. Nous avons aujourd'hui des foyers de tuberculose.
Il y a des dérives parfois.
Mais des dérives, c'est une lutte contre la fraude. Et lutter contre la fraude, ce n'est pas faire une nouvelle loi. Parce que ceux qui fraudent ne lisent pas les lois et ne les appliquent pas, manifestement.
L'AME vue côté fraude. Écoutons maintenant le propos d'Éric Zemmour, le président du parti Reconquête sur LCI, ce midi. Alors lui, il est plus radical que le chef du gouvernement ou sa ministre de l'écologie.
Il faut supprimer l'AME. L'AME date de 1998, gouvernement Jospin. Avant l'AME, il n'y avait pas des étrangers qui mouraient dans les rues de Paris. Donc il y a toujours eu une aide médicale d'urgence. La vérité, c'est que l'AME, c'est un moyen, ça a permis une nouvelle filière d'immigration. Tous les médecins que je connais ont des anecdotes sur ces gens qui viennent se faire soigner pour toutes les maladies de la terre en France et qui ne payent rien et qui font soigner leurs enfants, leurs pères, leurs mères, leurs grands-mères, qui mettent des fausses cartes vitales. Il faut supprimer l'AME, garder une aide médicale d'urgence, encore une fois, qui a toujours existé. Dans les autres pays d'Europe, ils n'ont pas l'AME. Les gens meurent dans la rue, alors comme ça ?
Le gouvernement s'est dit favorable mardi à un gel des crédits consacrés à l'AME. C'était un changement de pied après avoir prévu initialement de les augmenter dans le budget 2025. Est-ce que vous pensez, Émilie Zapalski, du cabinet Émilie Conseil, que Michel Barnier a pu céder à la pression de son ministre de l'Intérieur, qu'il aurait pu lui mettre avant-hier, vous y faisiez allusion, quand ils étaient tous les deux en déplacement à la frontière italienne ?
Il cherche un compromis. Il cherche un compromis entre ce que lui-même avait défendu au moment de la primaire des Républicains en 2022, c'est-à-dire de transformer l'aide médicale des en aide médicale d'urgence, comme le disait là à l'instant Éric Zemmour, et entre le garder. Il fait un espèce de compromis, il n'y aura pas d'augmentation, donc on gèle, on va essayer de clarifier qui bénéficie de quoi pour limiter un petit peu les soins qui peuvent être procurés par l'AME, mais on n'irait pas jusqu'à une aide médicale d'urgence. Il essaie vraiment de ménager la chèvre et le chou, de donner des signaux comme quoi il est beaucoup plus strict et ferme vis-à-vis de l'immigration illégale, et de l'autre côté, essayer de préserver ses forces de gauche, hein, puisqu'Agnès Pannier-Runacher est issue de la gauche, qui font partie de son gouvernement et qui vont voter aussi pour ce budget.
Alors est-ce que vous diriez que l'aide médicale d'État et le budget qui lui sera consacré est l'un de ces marqueurs qui permet de savoir où se situe la politique du gouvernement sur l'échiquier politique ?
Bien sûr, et puis on a vu déjà en commission des finances que le budget qui avait été modifié par la gauche n'a pas été accepté par le bloc justement de Michel Barnier et par le Rassemblement national. Donc quelque part, oui, on voit bien comment se positionne. Et d'ailleurs, on a l'impression que ce clivage gauche-droite revient après avoir été pas mal détruit par Emmanuel Macron avec ses propositions qui sont quand même assez opposées, même s'il y a des variations en fonction des mesures. Moi, ce que je voudrais revenir quand même juste sur l'aide médicale d'État, parce qu'on dit beaucoup de choses, tout et son contraire. On dit qu'on peut se faire des anneaux gastriques pour rien du tout. Faut quand même voir que ce qui est remboursé pour un anneau gastrique, c'est 450 €, alors que ça coûte 3 ou 4 000 euros. Donc je pense que des gens qui sont en situation difficile vont peut-être pas sortir tout cet argent. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on y met beaucoup. C'est une mesure un peu populiste, je trouve, de dire on va supprimer l'aide médicale d'État comme le fait Éric Zemmour, pour parler aux gens qui en ont ras-le-bol de l'immigration illégale et qui ont l'impression qu'il faut désigner un coupable dans ce déficit qui s'est fortement creusé. Et le coupable idéal, c'est l'étranger, forcément.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Plus globalement, le projet de budget se discute au cours des prochains jours. La gauche n'en veut pas et dès le début des débats, elle va déposer une motion de rejet pour que le texte ne soit pas examiné. Ce que déplore Laurent Saint-Martin, ancien socialiste, aujourd'hui ministre chargé du budget et des comptes publics, c'était sur France Inter.
Je ne le souhaite absolument pas. Les institutions françaises fonctionnent très bien ainsi. On propose un texte et le Parlement en débat. Je rappelle que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et aussi le Sénat. Et donc, la Constitution prévoit un calendrier. Ce calendrier, effectivement, il est de 70 jours pour le projet de loi de finances. Et nous avons besoin, donc, de débattre.
Vincent Jeanbrun est à peu près sur la même longueur d'onde, sachant que LR soutient l'action du gouvernement. Le député républicain du Val-de-Marne, porte-parole du groupe droite républicaine à l'Assemblée, commentait sur France 3 l'action des députés de gauche.
Ils essayent de mettre en danger le budget de la France. Et ils sont dans une stratégie du chaos. Si elle est votée, ce serait le chaos. Ça veut dire que c'est le shutdown, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de budget, on ne sait plus comment on finance les fonctionnaires, les services publics. Ils jouent avec le feu.
Vous craignez que cette motion de rejet soit votée ?
Je le crains parce que depuis quelques semaines, on voit qu'au niveau notamment des députés RN, ils n'hésitent pas à aller mêler leur voix à celle de la France insoumise. Le gouvernement Barnier ne peut être censuré que si le RN vote avec la LFI. C'est leur responsabilité. Ils iront ensuite rendre compte à leurs électeurs en disant « on fait la stratégie de la LFI ». On a vu ces dernières semaines que c'était possible. On a même des vice-présidents LFI à l'Assemblée nationale qui ont été élus grâce aux voix du Rassemblement national. Donc effectivement, cette stratégie où finalement les extrêmes se touchent et se parlent, elle a de quoi nous inquiéter.
Que va faire le Rassemblement national ? Réponse de Jean-Philippe Tanguy, député du RN sur BFM TV.
On ne votera pas la motion de rejet. Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont décidé parce que c'est faire un cadeau à M. Barnier. Mais ça, c'est la spécialité de la gauche, c'est crier très fort et en fait faciliter les compromissions de M. Barnier ou de M. Macron. Parce qu'eux, ils sont très contents qu'il y ait une motion de rejet et qu'on ne discute pas du budget devant les Français, que nos compatriotes ne voient pas ce qu'il se passe et que M. Barnier puisse faire ses petites magouilles avec les macronistes dans les couloirs et que la gauche couvre cela comme la gauche a permis, faut-il le rappeler, c'était il y a 3 mois seulement, la réélection de plus de 60 députés macronistes contre des députés marinistes.
Et ensuite, le texte budgétaire fera-t-il l'objet d'un vote ? Aurélien Taché, LFI, assure qu'en cas de 49-3, il y aura une motion de censure. C'était sur BFM.
C'est toujours l'artifice auquel ont recours les premiers ministres d'Emmanuel Macron depuis 2022. C'est-à-dire que comme ils n'ont aucune majorité, ni dans le pays, ni à l'Assemblée nationale, bien ils utilisent effectivement les méthodes les plus antidémocratiques, les plus brutales pour faire passer leur budget. Donc s'ils recourent au 49-3, ben, il y aura une motion de censure de déposer immédiatement, évidemment. Moi, je crois vraiment que si nos propositions sont rejetées, que ce gouvernement s'entête à ne pas prendre l'argent où il doit le prendre et à augmenter les factures d'électricité des Français, à repousser l'augmentation des retraites pour suivre l'inflation et d'autres mesures de ce type-là, eh bien vous verrez que les marges de manœuvre politique, sociale du camp qui a gagné les élections, du Nouveau Front Populaire, vont augmenter de jour en jour, de semaine en semaine. Donc M. Barnier, M. le Premier ministre, devrait faire un petit peu attention à cela. Et plutôt que de chercher les voies du Rassemblement national à tout prix, quitte à brader les principes de la République en allant faire une énième loi sur l'immigration, croyez-moi bien que ça n'ira pas et que le Premier ministre devrait réfléchir à ça.
Aurélien Taché de la France Insoumise. Émilie Zapaski, on parle ici de motion de rejet. C'est-à-dire avant le projet de loi. Après, il peut y avoir une motion de censure du gouvernement. Et entre les deux, il peut y avoir le recours donc, par le pouvoir à l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans vote. Bref, il va falloir être très très attentif.
Oui, alors on a entendu quand même Michel Barnier qui avait envie de redonner au Parlement son rôle, c'est-à-dire de débattre. Vous savez bien que depuis la législature 2022, ça a été très compliqué, les débats au Parlement. Il y avait beaucoup de colère, c'était pas très constructif en fait. Et je pense que les citoyens français avaient du mal avec ça. Et la promesse de Michel Barnier, c'est de dire on va revenir à des discussions. Et a priori, en espérant que cette motion de rejet ne sera pas votée, il espère que les débats pourront quand même avoir lieu et à mon avis, il essaiera de les faire tenir longtemps. On sait qu'ensuite, au Sénat, la discussion qui se poursuivrait au Sénat, si elle a bien lieu à l'Assemblée nationale, au Sénat, il a beaucoup plus de soutien, puisque le Sénat est beaucoup plus à droite, donc ça pourrait être encore plus constructif. Ce que je veux dire, c'est que je pense que cette séquence, elle sera quand même parlementaire, elle sera quand même de la discussion. On voit que les amendements, je crois qu'il y en a 3 fois moins, je crois qu'il y en a quelques 1000, alors qu'il y en avait 3000 au précédent projet de loi de finances. J'ai l'impression que les uns et les autres sont redevenus responsable au sens propre, c'est-à-dire de proposer, comme là en commission des finances, des solutions, de s'écouter, même si c'est dans une tension assez forte, pour dire, voilà, moi je propose ça, non, je suis pas d'accord. Et je pense que ça, c'est nécessaire pour la France, parce que les citoyens ont besoin de ça, et c'est très constructif de faire ça. Forcément, il y a le jeu des oppositions qui crient, on va faire motion de censure derrière, mais globalement, de toute façon, il faut que ce budget, il soit voté, il sera voté. Probablement, il y aura un 49-3. Moi, ce que j'espère simplement, c'est que ce débat parlementaire, il aura quand même lieu pour une partie du temps et pour une partie du projet de loi de finances. C'est important, et en plus, ça peut être source aussi d'idées. Enfin, c'est ça, le Parlement, il est là
pour
ça. En
fait, on revient aux sources. Les parlementaires vont parlementer.
C'est pas mal quand même. Parce qu'on a eu des élus qui n'étaient pas pris en compte. On avait des syndicats qui étaient un petit peu repoussés. Au moins que les parlementaires reprennent leur rôle.
Alors, le gouvernement propose 60 milliards d'économies et de hausses d'impôts. Lors du travail en commission qui s'est achevé hier soir, l'opposition de gauche a déjà proposé 50 milliards, ce qui fait dire au Premier ministre dans le JDD qu'il ne faut pas céder à la tentation d'un concours l'épine fiscale. Sur le fond du budget, chacun y va de sa recette. C'est le cas de le dire. Les partis de la coalition gouvernementale et le Rassemblement national ont voté contre le texte de la gauche, comprenant donc ces 50 milliards de nouvelles recettes fiscales. La réaction du ministre chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin.
Le texte qui est sorti hier de la Commission est irresponsable et inacceptable. On ne va pas matraquer fiscalement nos entreprises et l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est juste pas possible. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un programme NFP. C'est 50 milliards d'euros d'impôts de plus. Voilà, les masques sont tombés. Sauf que moi, je suis membre de ce gouvernement et on s'est engagé devant nos concitoyens à ce que 2/3 de la réduction de notre déficit public passe prioritairement par la réduction de la dépense publique. Et ça, on s'y tiendra, c'est notre responsabilité.
Quant à Éric Zemmour de Reconquête, il veut que d'énormes économies soient réalisées pour amener de l'ordre dans les finances publiques.
Il faut baisser les impôts et il faut faire un grand plan de réduction des dépenses qui ne soit pas de l'ordre du rabot, c'est-à-dire qu'on rabote au fur et à mesure. Nous avons 48% du PIB consacré aux prélèvements obligatoires. Les Allemands sont à 42%. 58% du PIB consacré aux dépenses publiques. Les Allemands sont à 49%. Nous devons arriver aux chiffres allemands. Pour cela, il faut un plan de réduction des dépenses de à peu près 200 milliards par an pendant 10 ans. Je pense qu'il faut taper dans tout. Nous sommes le pays le plus administré du monde. Nous avons 85 fonctionnaires pour 1000 habitants. En Allemagne, vous savez combien ils en sont ? Ils en sont à 56. Est-ce que l'Allemagne est moins bien administrée que nous ?
Alors,
non.
Question posée par Éric Zemmour. Ce budget intéresse-t-il les Français plus que tous les précédents, Émilie Zapelski ?
Oui, je pense qu'ils intéressent d'abord parce qu'il y a eu une prise de conscience et peut-être que Michel Barnier n'y est pas pour rien sur cette dette. Alors c'est vrai qu'il a récupéré un déficit qui était beaucoup plus profond que ce qu'on avait imaginé et ce qui avait été communiqué. Et d'ailleurs, il y a une commission d'enquête qui va travailler sur ce sujet-là pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il y a eu une sorte de prise en compte, de prise de conscience, de se dire on ne peut plus continuer comme ça avec un déficit qui dérape à ce point. Donc on est obligé de voir comment on fait, si c'est en dépensant moins, en gagnant plus d'argent avec des impôts ou quoi. Donc je pense que oui, il y a une véritable prise de conscience. Il y a des questions de pouvoir d'achat forcément. Parce que qui dit impôt, dit moins de pouvoir d'achat. Qui on impose ? On a commencé à parler des plus fortunés et des grandes entreprises, les grands profiteurs des différentes crises. Donc oui, les Français s'y intéressent fortement et ça peut avoir des incidences, évidemment, sur leur situation concrète.
Est-ce qu'ils comprennent que l'après-Covid, c'est aujourd'hui qu'on le paye ? C'est-à-dire toutes les aides, le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, il faut resserrer les cordons de la bourse.
Je crois que sur quoi qu'il en coûte, et le gouvernement, et l'État et les citoyens ont une espèce d'habitude. Comme si c'était normal qu'on nous verse de l'argent quand il y avait un problème, parce qu'on a vu que ce quoi qu'il en coûte, finalement, il a perduré. Dernièrement même, pour la crise agricole, on va chercher et on ouvre cette boîte de Pandore qui a été ouverte au moment du Covid. Donc c'est un peu difficile à comprendre, cet État-providence, il a repris sa place, mais un peu trop, et je ne suis pas sûre que les Français s'attendent à ça. Par contre, il y a une idée de justice fiscale. Et d'ailleurs, c'est les mêmes termes qu'a employé Michel Barnier lors de son discours de politique générale. Et finalement, cette justice fiscale, la gauche veut la pousser encore plus loin en disant finalement il faut aller encore plus chercher des impôts chez les plus fortunés et les grandes entreprises. Et cette idée, j'ai l'impression quand même qu'elle fait son chemin. Elle ne fait pas son chemin que à gauche. Le Modem aussi, qui avait déjà soutenu des amendements sur ça, rejoint la gauche sur ce sujet.
Autre chose à lire aujourd'hui dans le JDD, le résultat d'un sondage IFOP sur la popularité du président Emmanuel Macron. Elle était au plus bas en octobre, 78% de mécontents. Il égale le niveau d'impopularité atteint par François Mitterrand en 91 après le départ de Matignon de Michel Rocard. Est-ce qu'il paye cash la dissolution et la crise politique qui s'ensuit avec ce sondage ?
Je pense qu'il paye énormément sur l'incompréhension, la colère de la dissolution, cette espèce d'état de stupeur qu'il a créé à ce moment-là, et puis de cet état de tension pour la France, qui n'avance pas puisque les décisions sont repoussées. Je ne suis pas sûre que c'est en critiquant les commentateurs, des commentateurs et les journalistes, etc., qu'il obtiendra une meilleure popularité. Je pense que déjà, il y avait une distance avec sa population. Là, c'est une distance encore plus grande. Et pour preuve, j'en veux, l'accueil qui a été réservé à Michel Barnier, pourtant quand même un profil assez étrange et qui vient un peu, j'allais dire du passé, c'est méchant, mais enfin qui vient d'un autre temps. On l'a accueilli globalement, les gens l'ont accueilli comme quelqu'un qui allait apaiser la situation, qui avait du poids, de l'autorité. Macron, là, il est sacrément remis en question. Oui.
Merci pour ces analyses et commentaires. Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale, à retrouver sur l'appli et sur le site internet de RFI.